Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Commémoration ce mardi 21 octobre 2025 du 32e anniversaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Son compagnon de lutte politique, Léon Senghendakoumana, déplore l'allure que prend aujourd'hui ses festivités. Vous l'entendrez. Plus de 800 cas d'évasion de patients à l'hôpital Ngozi en 4 ans. C'est trop, s'inquiètent les députés. C'était lors de l'analyse, ce lundi, du rapport définitif d'audit sur la gestion de cet hôpital, un document présenté par la Cour des comptes. Le directeur de la supervision et de la stabilité financière à la Banque centrale appelle la population à plus de prudence contre certains groupements financiers qui promettent des intérêts alors que leur statut ne le leur permet pas. Éclairage dans ce journal. Voilà pour le sommaire.
La radio de l'avenir.
Les Burundais sont appelés à éviter l'injustice, le mal et la stigmatisation afin de suivre l'héritage du président Melchior Ndadaye. Dans son homélie au cours de la messe commémorative ce mardi du 32e triste anniversaire de l'assassinat de ce héros de la démocratie, l'archevêque de Bujumbura a également ajouté que les Burundais devrait prendre conscience qu'il partage à la fois la vie et la mort et que toute personne qui commet le mal en fait subir les conséquences négatives à toute la société. On écoute Monseigneur Gervais Banchimiyobusa dans cette traduction française de Clovis Nyongo.
Abansi baramwishe barabishe mugabo iragi basize.
Les malfaiteurs ont assassiné le président Melchior Ndadaye ainsi que certains de ses collaborateurs. Pourtant, l'héritage qu'ils nous ont laissé en matière de la démocratie reste d'une grande importance que personne ne néglige. D'ailleurs, si nous parvenons à promouvoir cet héritage, cela nous permettra de réaliser un développement durable et d'instaurer une paix véritable. Car lorsque les droits humains sont respectés et que les ressources sont partagées équitablement, la paix peut réellement régner. À l'inverse, l'injustice, la stigmatisation et la discrimination sont à l'origine de nombreux crimes. En cette messe, permettez-moi de faire référence à la parole que l'Église adresse à ses fidèles lors de journées comme celle-ci, afin de nous encourager à continuer d'honorer l'héritage que le président Melchior Ndadaye et ses compagnons nous ont légué. Sur cette terre, il faut se rappeler que nous sommes interdépendants. Cela se reflète dans le crime de l'assassinat du président Ndadaye. Des individus ont choisi de tuer un président démocratique élu par le peuple. Les conséquences négatives qui en ont découlé ont touché non seulement les auteurs de cet acte, mais toute la nation plongée ensuite dans une crise profonde. Ainsi, sachant que tout ce que nous faisons a des répercussions sur l'ensemble de la société.
Le procès sur l'assassinat du président Melchior Ndadaye semble stagner, constatent les militants du parti Sawanya Frodebou qui continuent de réclamer que ce dossier soit enfin clôturé. C'est ce qu'a déclaré son compagnon de lutte politique, Léon Senghendakoumana. Il a également déploré que cette journée n'ait pas été commémorée comme elle l'était auparavant, ce qu'il considère comme un recul pour la démocratie.
Il y a eu des procès. Le premier procès, le parquet général a mal qualifié ce procès. Ils ont qualifié le procès comme assassinat de la personne Ndadaye. pas même du président Melchior Ndadaye, l'assassinat de Ndadaye. Et avec cette qualification, la conséquence a été qu'on a jugé 5 caporaux. 5 caporaux ne peuvent pas aller au palais, extraire un président à minuit, le maintenir en otage jusque le lendemain à 10h, sans que l'armée et la gendarmerie n'aient réagi. C'était impossible. C'était un complot contre la démocratie et les institutions démocratiquement élues. Alors, le fait que le parquet l'a fait exprès, il était en complicité avec certainement les auteurs de ce coup d'État. Concernant cet assassinat aussi et ces procès, le parti Sahwanya Frodeb, la famille de sang du président Melchior Ndadaye ont porté également plainte. Il y a le ministère public qui s'est saisi marre du dossier, mais nous avons porté plainte et avec des faits et des témoignages sur les causes profondes de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Mais cela n'a jamais été tenu en compte jusqu'aujourd'hui. Le Frodebou a droit à une réparation civile. Nous continuons alors à suivre ce dossier jusqu'à ce que le Frodebou soit réhabilité. C'est quand même déplorable. On vient de terminer les cérémonies, la commémoration. J'ai posé la question à ceux qui étaient ici avant midi. Le discours n'a pas été écouté. Maintenant, on est ici. Est-ce que vous avez entendu le discours de Ndadaye? Et qu'est-ce qu'on est venu faire? On voit qu'on a tendance à faire oublier ces journées. Même pour l'indépendance, j'ai posé la question, ça s'est passé comme ça pour le prince Louis Ouagasore. La tendance est de faire oublier le héros national de l'indépendance et le héros national de la démocratie. Pour quel intérêt? Je ne sais pas. C'est pourquoi que j'ai dit qu'il faut un débat, un dialogue là-dessus. Les partis politiques doivent s'organiser et exiger un débat avec le gouvernement pour savoir pourquoi est-ce qu'on est en train de fragiliser ces journées. Est-ce qu'on veut refuser l'indépendance? Est-ce qu'on veut refuser la démocratie?
Voilà, c'était Léonce Nguenda-Koumana, ancien président du parti Sahwanya Frodebou et compagnon de lutte du président Melchior Ndadaye. Le nombre élevé de cas d'évasion de patients dans les services de gynécologie, de pédiatrie et des urgences de l'hôpital régional d'Ngozi suscite des inquiétudes à l'Assemblée nationale burundaise. C'est ce qui est ressorti de la séance parlementaire de ce lundi qui était consacrée à l'analyse du rapport définitif d'audit sur la gestion de cet hôpital. La Cour des comptes y a relevé 815 cas d'évasion de patients en 4 ans. L'hôpital d'Ngozi justifie ses évasions par le coût élevé des factures, le manque de vigilance ou la complicité de certains agents de garde. Alexis Ndaisenga, reportage.
Parmi les constats de la Cour des comptes concernant la gestion de l'hôpital régional d'Ngozi, on note qu'au niveau du recrutement du personnel, sur 58 dossiers consultés, 9 dossiers du personnel sous contrat et 11 dossiers du personnel sous statut sont incomplets. Selon le rapport, certains éléments y manquent. Un autre constat concernant la gestion des prestations des soins est que certains services de l'hôpital ne disposent pas de tout le personnel requis ni des qualifications exigées par les normes sanitaires. À ce niveau, il est également relevé un nombre élevé de cas d'évasion des patients, notamment dans les services de gynécologie, de pédiatrie et des urgences. Un total de 815 patients évadés a été enregistré sur une période de 4 ans, ce qui a suscité l'inquiétude de certains députés au cours de cette séance parlementaire. Le député Dieudonné Bizimana a exprimer ses préoccupations quant à ces évasions de patients, soulignant que cela pourrait entraîner des pertes financières malgré les besoins importants en ressources. Il a demandé que ces patients soient recherchés afin de régler leurs dettes et que les personnes les ayant aidés à s'évader soient poursuivies. De son côté, l'honorable Floribert Nzambimana s'est interrogé sur les raisons pour lesquelles des patients de services de pédiatrie s'évadent alors que les soins y sont censés être gratuits. Il a demandé si cette gratuité avait été suspendue. En réponse à ses préoccupations, la ministre de la Santé publique, Ridwine Baradahana, a affirmé qu'elle allait suivre de près la gestion de cet hôpital comme celle des autres hôpitaux publics. Concernant les cas d'évasion à l'hôpital régional d'Ngozi, les responsables ont précisé qu'ils sont principalement dus aux factures élevées, au manque de vigilance du personnel de sécurité ainsi qu'à la complicité de certains membres du personnel en charge de la garde.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
La Banque de la République du Burundi est en train de recouvrer les fonds détournés dans certaines institutions de microfinance afin de rembourser les épargnants. Le directeur de la supervision et de la stabilité financière au sein de la BRB précise qu'il s'agit de celle de la quatrième catégorie appelée groupement financier. Simplice Nsabiyumva indique qu'il est difficile de récupérer la totalité des fonds, soulignant également qu'aucun fonds de garantie n'est déposé par ces groupements pour servir de remboursement en cas de faillite. Suivez ses explications.
Le taux créditaire appliqué par les banques, aujourd'hui, nous avons le taux créditaire moyen qui est à 7% par an. Mais les groupements financiers communautaires qui veulent appliquer ces pratiques frauduleuses proposent à leurs membres un taux de 5% qui est de 60% annuellement. Il y en a même qui proposent 8%. 8, si on multiplie par 12, ça fait combien? Ça fait 96%. Vous entendez bien que ce serait une pratique qui n'amène nulle part. Sauf que ce sont des gens qui veulent extorquer les fonds du public. Ce qu'on observe, c'est que ces gens qui appliquent ces taux-là, ils ramassent de l'argent et puis ils disparaissent. Ceux qui ne parviennent pas à disparaître sont devant les juridictions et les juridictions sont en train de faire de leur mieux pour pouvoir inciter ces gens à rembourser les fonds que nous considérons comme perdus au niveau des groupements financiers communautaires. Et nous attendons pour préparer des résultats de la sentence. La Banque centrale est en train de faire ce qu'elle doit faire. La mission de la Banque centrale, elle est vaste, mais dans notre domaine, c'est protéger les déposants et assurer la stabilité financière. Quand une institution de microfinance tombe en faillite, il y a des règles à suivre pour pouvoir désintéresser les déposants. Mais pour effectuer le désintéressement, il faut avoir de l'argent disponible. Si l'argent disponible n'est pas là, il faut prendre du temps pour chercher cet argent partout où l'argent a été caché.
Le directeur de la supervision et de la stabilité financière à la Banque centrale ajoute que le fonds de résolution et de garantie est en cours de mise en place, mais que ce fonds ne concerne que les banques et les microfinances. De la première à la troisième catégorie, Simplice Nsabiyumva rappelle à la population de ne pas se laisser manipuler par des promesses d'intérêt mensuel sur leur capital. Les urgences ainsi que la mobilisation des ressources sont quelques défis dans la mise en œuvre des projets du système des Nations Unies au Burundi. Cela a été déclaré par Violette Kenyana Kakiomia, la coordinatrice résidente de ce système au Burundi. Et c'était lors d'une conférence de presse relative à la commémoration des 80 ans d'existence de l'ONU dans le monde. Selon elle, bien que les États-Unis d'Amérique aient suspendu leur aide dans certains secteurs, ce pays reste néanmoins le principal contributeur de l'ONU. Elle a également assuré que tous les efforts sont déployés afin d'éviter toute perturbation ou dysfonction.
Les urgences qui arrivent pour lesquelles on n'a pas planifié. Et parfois, on a le plan de contingence, mais on n'a pas de budget adéquat. Et ces urgences viennent impacter même les programmes qui sont planifiés parce qu'on doit faire les changements, utiliser les budgets qui sont planifiés pour d'autres programmes pour répondre aux urgences. Pour vous donner quelques exemples, je parlerai des inondations que nous avons eues au cours de l'année 2024 qui a été quand même sévère, où nous avons dû faire quelques modifications dans le programme qui était en cours pour répondre aux besoins de la population affectée. Nous avons aussi les urgences qui sont liées à la population réfugiée qui est arrivée quand il y a eu le conflit dans les sous-régions. Ça aussi, ça impacte la mise en œuvre des programmes qui sont planifiés, mais on doit répondre à ces urgences en même temps qu'on continue à répondre aux programmes qui sont planifiés. La deuxième facteur, je voudrais parler de la mobilisation des ressources parce que quand on signe le programme avec le gouvernement, au début de cycle, par exemple, le cycle actuel avec le Burundi qui est de 2023 à 2027, nous avons une projection sur les ressources que nous allons mobiliser et ces ressources sont importantes pour la mise en œuvre et pour atteindre les objectifs qui sont accordés avec le gouvernement. Parfois, il y a quelques changements dans les politiques de gouvernement qui nous donnent l'argent et des partenaires et quand on n'arrive pas à mobiliser assez de ressources, ça impacte négativement la mise en œuvre de ces programmes et où atteindre les objectifs qui sont dans le cadre de coopération. Je peux parler aussi des mesures qui ont été mises en place par le gouvernement américain. Moi, je voudrais répondre, pas citer seulement le gouvernement américain, parce que bien, mais plusieurs partenaires ont réduit leurs contributions. C'est quelque chose qui impacte beaucoup notre travail, mais nous sommes en train de faire notre mieux en consultation collaboration avec le gouvernement pour faire les ajustements, pour avoir le maximum de résultats avec le peu que nous avons. Je pense que c'est très très important de dire que malgré le fait que le gouvernement des États-Unis a coupé le budget, il reste un des plus importants bailleurs des Nations Unies. Beaucoup que nous continuons à faire est financé par le gouvernement des États-Unis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas coupé à 100% et il reste un des bailleurs les plus importants.
Violette Kenyana Kakiomia, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burundi. À la une de l'actualité internationale, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été incarcéré ce mardi à la prison de la santé, près d'un mois après sa condamnation pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007. Son avocat a déposé une demande de mise en liberté. Nicolas Sarkozy avait été reçu vendredi par Emmanuel Macron à l'Élysée. Le président français a jugé lundi qu'il était normal sur le plan humain qu'il reçoive son prédécesseur, tout en réitérant qu'il était le gardien de l'indépendance, de la justice. Jamais dans l'histoire de la République française ou dans celle de l'Union européenne, un ancien chef d'État n'a dormi derrière les barreaux. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Yeah.